Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR. Shai, on connaît la finale NBA. Pas vraiment de surprise après ce Game 5 entre les Dallas Mavericks et les Wolves. On aura bien donc une finale NBA Boston Celtics contre les Dallas Mavericks qui commencera jeudi prochain, c'est ça? Je dis pas de bêtises?
C'est dans une semaine, normalement il y a une semaine de repos plein, donc ouais.
C'est ça, exactement. Donc le 6 juin de tête, si je ne me trompe pas, sera le jour du premier match du Game 1. Mais on va revenir quand même sur ce cinquième match entre les Wolves et les Mavericks. Shai, on l'avait dit la dernière fois, je ne sais plus si c'était dans le CQFR d'hier, si je crois que c'était ça quand on faisait un petit peu la preview. On s'était dit, voilà, Dallas a perdu le Game 4. Ils ont quand même beaucoup à perdre en termes de repos si jamais la série devait se prolonger. On avait dit qu'on les sentait sur le point de venir à Minnesota, déterminer dès la première minute, donner le ton. C'est exactement ce qui s'est passé.
Ouais, la surprise, c'est pas tellement que Dallas soit qualifié pour les finales NBA. On avait vu que la tendance était clairement en leur faveur, même avec la défaite dans le Game 4. La surprise, c'est la facilité avec laquelle ils ont écrasé, dominé, surpassé les Timberwolves cette nuit. On disait hier qu'on espérait un match serré, qu'on espérait un peu de suspense. Clairement, Luka Doncic et les Mavs n'avaient pas du tout la même idée. D'entrée, ça a été un massacre, je trouve, hein, à échelle d'un match de playoff. Hein. Je ne dis pas que les Wolves ont été ridicules, mais on n'a pas retrouvé l'équipe qui a été capable de défendre ultra fort contre Denver au tour précédent notamment. Et on a vu des Mavs complètement en maîtrise. Hein. Doncic, j'ai repensé à tout ce qu'on a dit sur lui dans le podcast de lundi. Je me suis dit, bah, franchement, on n'a pas exagéré en disant qu'on voyait un joueur all-time sous nos yeux. Il a encore fait un match incroyable, totalement folle, 20 points dans le premier quart-temps, et puis il n'y a pas eu de suspense, quoi. Ils ont vraiment dominé, il y avait plus 29 à la pause. J'ai très vite senti, c'est quasiment la première fois, et c'est la première fois dans cette série, où j'ai senti tout de suite que voilà, ça ne servait à rien, il n'y avait pas de suspense. Même à une ère, on est dans une ère où il y a des remontées folles hein, avec au scoring, je me suis dit, non, là, Luka, il est en mission, les Mavs sont trop sûrs d'eux, et les Wolves... avaient plus assez d'énergie. Ils ont tout mis sur le match précédent, j'ai l'impression, et ils avaient à nouveau pas la réponse. Donc, très, très impressionné par ce que j'ai vu de la part des Mavs.
Ouais, ce que j'ai trouvé exemplaire, parce qu'effectivement, que Luka Doncic mette 20 points dans le premier quart-temps, bon, c'est fort. Hein. Fallait voir, si vous n'avez pas vu les images, encore allez voir, parce que t'as l'impression que le mec, il a l'entraînement dans une salle vide, c'est assez fou. Mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est la manière dont il a mis ses points. Moi, je reste là-dessus. Quand les Mavs mettent de l'intensité en attaque, vraiment, qui montent la balle vite, je me demande s'il y a une équipe qui peut les battre. Ça va être vraiment la grande question de ces finales NBA. En fait, ce qui m'a plu dans ce premier quart-temps, c'est que même si Doncic a beaucoup tiré, il n'était pas à monter la balle en marchant. Il y a tout de suite eu beaucoup d'intensité. Ils ont tout de suite mis les Wolves sur le reculoir. Et après, effectivement, sa manière d'être percutant dans le scoring a tout de suite lancé les Mavs sur une bonne dynamique. Après, les Wolves ont eu du répondant. En premier quart-temps, il n'y avait rien de fait. Mmh. Et progressivement... cette équipe des Wolves a pris l'eau à domicile, impressionnant quoi. Alors, je me suis noté ça à cheval sur la fin du premier carton et le début du deuxième. Dallas a claqué un 22-1 aux Wolves sur leur propre terrain. Tu sais, j'ai regardé le match en entier. En regardant le box score, j'ai même été étonné de voir que Karl-Anthony Towns avait fini avec 28 points, 12 rebonds et Anthony Edwards avec 28 points, 9 rebonds, 6 passes. Parce qu'en fait, si tu vois les stats, tu dis bon, bah, ils ont fait leur match, faut chercher les responsabilités sont à chercher autre part. Moi, je les ai. Enfin, à part Anthony Edwards dans le troisième carton, je les ai trouvés. Transparent quoi. Et quand je te dis Anthony Edwards dans le troisième carton, il y avait déjà 30 points d'écart.
C'est ça, c'est pour ça que ça t'a pas marqué, je pense. C'est parce que c'était à la marge de tout ce qu'ont pu faire les Mavs à côté, qui était quelque chose d'extrêmement extrêmement dominateur. Et d'entrée, c'est pour ça que tu as raison de souligner qu'ils ont attaqué fort et que c'est ça qui a fait la différence. Parce que en prenant les Wolves à la gorge, ils n'ont pas laissé le temps au public de se chauffer. À part contre Doncic, mais alors c'était encore une erreur fatale, on l'a vu. Il y a des mecs qui agitaient des mouchoirs dans les tribunes, qui lui parlaient. Luka a dit après, bah ouais, avec ce qu'il m'a dit, j'aurais pu porter plainte, mais en gros, j'ai préféré leur mettre la misère. Enfin, le public n'a pas vraiment eu le temps d'être hostile de manière à vraiment décontenancer les Mavs. Et les Wolves n'ont pas eu le temps de réagir. Ils ont été pris à la gorge et ça, c'était une stratégie parfaite, je trouve.
Attends, juste pour l'hostilité du public. Je pense qu'il y a un truc qu'en NBA, les mecs captent pas. Luka Doncic, il a été joué contre l'Olympiakos, Panathinaikos, contre le Partizan Belgrade quand il avait 17 piges. C'est pas le public de Minnesota qui va l'impressionner ou qui va lui mettre la pression. Hein. Ça, je pense que même les commentateurs, à la fin du match, tu sais, t'avais Reggie Miller qui disait, ouais, bon, bah, maintenant, ils vont faire la fi ils sont en finale NBA, Luka Doncic, il va découvrir un petit peu cette ambiance, etc.
Il parle.
Je pense que t'as pas capté, le mec, il a fait une finale de championnat d'Europe. Je dis pas que c'est pas autre chose et qu'il va pas, effectivement, que les finales NBA, c'est pas en termes de. Voilà, c'est extrêmement médiatisé. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses à découvrir, mais c'est pas les aspects pression. Je pense que les gens
Surtout
captent
du
pas, en fait.
public. Non, mais surtout du
Ouais!
public, ça n'a rien à voir parce que. Et je veux dire, après, c'est du point de vue américain, mais c'est pas la même chose qu'une salle, ouais, une salle grecque, turque, enfin, où là, tu t'entends même pas, tu peux même pas parler à ton coach ou à tes coéquipiers. T'as l'impression que tu vas te faire fumer par les mecs qui sont dans le public. Là, je pense à un mec du Minnesota qui agite un mouchoir, bon, et qui lui dit des mots, des noms d'oiseaux. Lucas, ça le fait doucement rigoler. Et derrière, la preuve, c'est qu'il les a assassinés derrière, de ce point de vue. Enfin, et d'ailleurs, pour la parenthèse, les seules salles où il y a vraiment énormément parfois d'ambiance et là où ça pourrait ressembler vaguement à ce qu'il y a en Europe, ce serait éventuellement dans certaines salles universitaires, mais sinon, voilà, les Américains ne sont pas conscients. Et d'ailleurs, dès qu'ils voient des extraits d'un match au Pana où il y a des fumigènes et tout, bah, ils deviennent fous, quoi. Donc oui, Luka, c'est pas du tout ça qui va le. La différence, c'est le niveau de jeu parfois ou l'intensité quelque part, même si l'EuroLeague a parfois rien à envier. De ce côté-là non plus à l'NBA, mais non, je suis d'accord, il y a pas, c'est pas du tout ça qui. Quand on entend les commentateurs dire waouh, ou même les joueurs eux-mêmes, incroyable, c'était une ambiance comme je n'en ai jamais vu, oui, bon, voilà, il y a certains joueurs que ça va pas affecter, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Et puis, je pense que enfin, ses adversaires doivent commencer à s'en rendre compte maintenant, mais Luka, il fait partie de ce groupe de joueurs qu'il faut pas aller astiquer, asticoter, pardon. Astiquer, ça vous regarde, mais asticoter, en tout cas, faut pas le faire. Mais tu sais, il a ce côté vraiment. C'est pas pour faire une comparaison, je suis pas en train de comparer Luka à Jordan, mais tu sens que c'est le genre de mec. En fait, s'il n'y a pas de provocation, il va trouver une raison de.
Il va l'inventer
Tu vois, quand
même.
je vois son
Il
truc
va
avec eux, il
l'inventer.
va exactement. Quand tu vois comment manifestement il a l'air de détester Rudy Gobert, il y a pas d'explication réelle, du moins qu'on ait. Tu as l'impression qu'il s'est monté un truc tout seul et il puise là-dedans quand il en a besoin. Enfin, c'était une espèce de. Là, au premier quart-temps, c'était une vendetta, quoi. Il voulait remettre la tête sous l'eau et limite, même quand ils sont à moins 20, ils continuent de creuser. Tu sens qu'il y a juste un moment de flottement à la fin du troisième où effectivement. Il y a un relâchement logique de la part de Dallas en termes
Ouais,
d'intensité. Ça
ils
commence à
reviennent à
avancer
combien?
de
Je sais même plus à combien ils reviennent, mais
perdre des.
je les ai pas sentis non plus en danger. Hein,
23. Je crois que le plus petit écart, ça a été quelque. Je crois qu'ils ne sont pas passés sous la barre des 20 points. Ils sont revenus à 23 points. À un moment, c'était marrant parce qu'il y a Karl-Anthony Towns qui va chercher un rebond offensif. Il remonte, il met le panier, il fait ah comme ça. Il est en train de flex. Tu vois le score, tu fais c'est cool, vous êtes revenu à moins 30. Garde ton énergie, garçon. Voilà, pour revenir un petit peu sur le match, pourtant j'ai trouvé qu'en début de match, il y avait eu des choses qui étaient intéressantes mises en place par les Wolves, qui avaient notamment ciblé Luka Doncic pour essayer de le faire défendre dans les pick and roll. Et on a vu, je crois, Rudy prend 7 tirs dans le premier quart-temps. C'est sans doute le premier quart-temps des playoffs où il a pris le plus de tirs.
C'est sûr, ouais.
Ouais, c'était vraiment un dessein, c'est-à-dire qu'ils ont vu que Dallas switchait sur ce pick and roll. Ils ont fait jouer systématiquement Luka et derrière pour essayer de le jouer, le poster ou du moins le fatiguer, quoi, le faire travailler dans sa défense au travers des écrans. On a vu d'ailleurs que même, enfin, Luka fait beaucoup de progrès défensivement, manifestement tout au long de la saison et puis surtout là durant ses playoffs, ça se voit. Par contre, voilà, il y a un vrai axe de travail, je pense, sur la défense, sur les pick and roll, s'il veut continuer à progresser dans ce registre. Et j'ai été étonné finalement. Que Minnesota abandonne cette option. Alors c'est pas Rudy a pas forcément marqué systématiquement, il a provoqué une faute, deux fautes peut-être. Il a pas marqué systématiquement, mais j'ai trouvé que c'était pas inintéressant pour fatiguer Luka, le faire travailler là-dessus. Et j'étais hyper étonné que finalement ils abandonnent complètement cette option par la suite.
Ouais, ils l'ont abandonné parce que si tu dis qu'il a pris 7 tirs dans le premier quart-temps, ce qui est, oui, ça doit être à peu près ça, hein, parce que comme ça, de visu, j'ai cette impression-là aussi. Il en prend que 8 en tout. Donc après, après, j'ai trouvé qu'il avait traversé le match comme les autres, de manière ultra discrète. On l'a pas spécialement vu en défense. Enfin, il n'a pas beaucoup pesé en défense, ni en attaque. C'est pas du tout pour le cibler individuellement, hein. Enfin, vous savez on est plutôt quand même du genre à essayer de le défendre contre les attaques injustes en général. Mais là, il a pas surnagé d'un côté ou de l'autre. Mais c'était une option prise qui a après disparu et ça aurait peut-être, je sais pas si ça aurait changé la donne tellement ils étaient au-dessus. Mais Et pour revenir sur Luka, du coup, sur la défense, le fait qu'il ait réussi, donc devoir travailler un peu et quand même réussi à faire le match qu'il a fait en attaque, j'ai l'impression qu'il faudra lui demander après les finales et tout ça, mais je suis intéressé par le côté condition physique parce qu'il arrive à répéter les efforts défensivement. Avant, peut-être qu'il avait plus de mal parce qu'il y avait toujours cette question de est-ce qu'il se met en condition physique en cours de saison? Est-ce qu'il n'est pas même un peu hors de forme, même au pic de la saison? Là, physiquement, à part le dernier match, et encore, ça s'est pas forcément trop retranscrit, je trouve. Le mec finit avec un triple-double quand même, c'est pas ridicule. Je le trouve en très très bonne condition physique, moi. J'ai aucune idée du poids qu'il pèse ou quoi, j'en sais fichtrement rien. Par contre, je le trouve, sur l'impression visuelle, il est en très très bonne condition parce qu'il arrive à répondre aussi bien que possible aux défis défensifs que lui imposent les Wolves et il arrive à être le joueur offensif. Enfin voilà, on n'a pas donné ses stats, mais il finit avec 36 points, ouais, 36 points à 14 sur 22, 6 sur 10 à 3 points. Il prend 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Plus 22 de plus-minus, il fait un match formidable. En parallèle, on n'a pas parlé de lui encore, mais Kyrie aussi, c'est mal de crâne à assurer. Il a encore fait un match incroyable. Mais oui, voilà, je suis d'accord sur le côté aussi défensif pour Luka, évidemment.
Ouais, non. C'est clair. Ce qui est manifeste, alors tu as raison sur sa condition physique. De toute façon, on l'avait vu dès le début d'année, quand même, qu'il était arrivé bien plus affûté que les saisons précédentes. T'es comme les autres stars, il avait laissé fuiter quelques vidéos d'entraînement.
Ouais.
Certains s'étaient moqués de lui, d'ailleurs, parce qu'on le voyait à un moment faire du travail défensif. Les gens se foutaient de sa gueule en disant qu'on dirait un quinquagénaire en train d'essayer de toucher des cônes. Au bout du compte, ça a plutôt marché. Par contre, ce qui est vraiment manifeste là, c'est que ses problèmes de genoux et de cheville, alors je dis pas qu'il est revenu à 100%, mais ça va beaucoup mieux
Ouais.
qu'au début de la série. Là, sur ce match, enfin, tu vois le début du match, il est flamboyant. Tu parlais de Kyrie Irving, c'est intéressant. Donc, Kyrie qui finit aussi avec 36 points, 4 rebonds, 5 passes. À un moment, le challenge, c'était de savoir si les Wolves allaient réussir à gagner le match, genre si l'équipe complète des Wolves allait finir le match en ayant mis plus de points que le duo Kyrie Irving-Luka, parce qu'à un moment c'était ce duo qui était devant au score. Finalement, ça s'est un petit peu lissé, mais ouais, ils finissent avec 36 points chacun.
C'est historique,
Parfait.
hein. Ils ont une stat historique
Ouais.
d'ailleurs. Damien a fait une session ce matin là-dessus sur le site. Ils ont tous les deux marqué 36 points. Et à ce stade de la compète, c'est la première fois qu'il y a deux joueurs d'une même équipe qui dépassent la barre des 35 points depuis 23 ans, du coup, où c'était Kobe et Shaq. Enfin, tu vois, c'est bien pour souligner le côté important du duo offensivement, quoi. Et sur ces playoffs-là, c'est la quatrième fois que les deux ils inscrivent au moins 30 points chacun. Et il n'y a que Elgin Baylor et Jerry West qui avaient fait ça avant. Donc le tandem marche plus que bien.
Ouais, et puis là sur l'alternance, c'était énorme parce
Parfait.
qu'en fait, je crois que donc Luka met 20 points dans le premier quart-temps, je crois que Kyrie n'en met que 4 et derrière Kyrie, il a repris le flambeau dans la foulée. Non, ouais, démonstration de la part de Dallas. J'insiste encore une fois sur le travail quand même exemplaire de Jason Kidd sur ses playoffs. Là, pareil, à un moment où il ressort Dante Exum, c'est sur quelques possessions, hein. C'est à la marge, mais tous ces petits ajustements ont fonctionné. Ça faisait plaisir aussi de revoir Derek Lively sur le terrain.
Oui.
Voilà, alors son plus-minus est pas extraordinaire. Par contre, il était bon, 9,8 rebonds, 3 passes. Dans la qualité de passe, il est impressionnant, hein.
Et
C'est
trois contre
vraiment.
encore, et fait trois contre aussi.
Ouais.
Hein.
Ouais. Il a.
Et oui, son retour a fait du bien. De toute façon, même juste pour. Parce que ça a mis un peu moins de pression sur Gafford, qui avait fait un plutôt bon match la dernière
Qui
fois,
était
mais qui
très bon
était.
aussi. Ouais.
Et il a été encore très bon. Il joue que 20 minutes, mais sur les 20 minutes, il fait 11 points, 9 rebonds et plus 26 de plus-minus. Il a été là sur le plus gros temps fort des Mavs. Tout a fonctionné. Tu as raison. Jason Kidd continue de marcher sur l'eau sur toutes ses décisions. Alors là, le retour de Lively fait évidemment du bien. Très discrètement aussi, le retour de Kleber offre une rotation assez safe aussi à côté. Il y a tout qui clique pour les Mavs. De toute façon, dans ces playoffs, tout fonctionne, toutes les options qu'ils prennent, tous les choix du coach, tous les joueurs individuellement, il n'y a pas de mec qui est en dessous. C'est un régal de les voir. Il n'y a pas autre chose à dire, je pense.
Ouais, non mais t'as raison. Alors deux choses hyper, enfin plutôt marrantes. Alors j'ai pas vérifié la stat, donc elle vient de Reggie Miller, mais allez la vérifier. Moi j'irai jeter un coup d'œil. Mais Derek Lively, je crois qu'il a pas raté un seul tir
Ah,
de
il n'a pas
toute
raté
la
un tir,
série
c'est
face aux
sûr.
Wolves. Donc c'est
Il n'en a
ça,
pas
il
raté
n'a
un,
pas
ouais.
raté un seul tir. Et pour Kleber, je suis totalement d'accord avec toi. Défensivement, je l'ai trouvé super, enfin vraiment très en jambes. Et c'était, il à un moment, il a mis un très beau tir à 3 points, parce que dans le match précédent, je me suis dit, mais il peut plus shooter, en fait. Il avait un geste hyper robotique. Donc tu sens que son épaule n'est pas encore remise à 100%. Là, attends, je regarde ses stats, je sais pas combien il en a pris des tirs. Il a
il
fait
a
1
pris
sur
2
2 à
tirs,
3 points.
voilà, c'est ça.
Ouais. En tout cas, celui qui met vraiment parfaitement fluide dans le rythme, etc., ça va être. On se projettera lundi avec Antoine. On fera un podcast preview de la finale NBA dans lequel on rentrera en détail dans l'affrontement à venir entre les Mavs et les Celtics. Mais la situation, elle est idéale pour Dallas. Ils arrivent dans les meilleures dispositions. Ils vont avoir un petit peu de temps pour se reposer avant cette confrontation. Ça va être passionnant. Je te propose qu'on reparle un petit peu quand même de Minnesota. Moi, j'ai quand même été étonné finalement. Tu vois, encore une fois, Anthony Edwards, il finit même avec 10 sur 18 au tir. 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 28 points, 9 rebonds, 6 passes, c'est un bon match. Et pourtant, en première mi-temps, je l'ai trouvé transparent, en fait. Alors, enfin, il n'a pas du tout eu cet impact qu'on l'a vu avoir pendant tous ces playoffs où il y a des moments où tu vois que lui, quoi, il crève l'écran. Tu sens qu'il y a plus que le joueur, il y a un charisme, il y a un aura. Là, je l'ai trouvé globalement transparent dans la première mi-temps, comme on en parlait, là, dans le troisième quart-temps, il remet un petit peu le nez à la fenêtre, comme on dit, mais je sais pas, quel a été ton sentiment sur Anthony Edwards dans ce match?
Je pense que les Mavs n'ont pas laissé ce bon match, cette bonne copie, avoir un impact parce qu'ils avaient déjà fait le trou. Parce que du coup, ça c'est. J'ai la même impression que toi en voyant le match. C'est vrai qu'après, je me suis dit, et même avec 4, ils ont plutôt fait un bon match en attaque. Ils n'ont pas raté beaucoup de trucs. Il n'y a pas beaucoup de pertes de balles. Mais ça a été. Bon, c'est aussi la preuve que les stats ne montrent pas tout d'un match parce que les Mavs ont tellement bien fait collectivement qu'ils ont réussi à isoler ces performances-là et qu'elles aient strictement aucun impact. Et oui, je l'ai même moins dans l'énergie qu'il dégage. C'est une de ses qualités aussi, hein, le fait qu'il dégage quelque chose de. Alors, ça peut être de l'aura, comme tu dis, du leadership. Voilà, en termes de basket pur et sur la personnalité, là, il était un peu effacé. Bah, il scorait parce qu'il fallait scorer, mais derrière, il y avait trop de retard, trop de décalage avec le reste. Et il n'y a pas que lui. J'ai l'impression que tous les joueurs de Minnesota ont un peu sont passés. J'allais dire comme des fantômes, c'est un peu dur parce qu'on parle d'une équipe qui est qualifiée en finale, mais au tour précédent, tu vois, j'aurais bien aimé voir plus Jaden McDaniels. Je trouve que Conley était ultra discret. Le banc, bah, on s'est émerveillé de la saison de Nasrid et même des playoffs de Nasrid. Et là, il n'y a pas eu l'impact en sortie de banc. Kyle Anderson a pris plus de responsabilités au fur et à mesure des playoffs. Et ça change aussi forcément un peu la physionomie du jeu. Nikhil Alexander-Walker, pareil, il a fait des playoffs extraordinaires, mais là sur cette série, j'ai l'impression qu'il n'a pas joué, quoi. Son rôle défensif, un énorme défenseur, les shoots qu'il peut mettre, ils ont réussi. C'est sans doute aussi du fait de la grosse performance des Mavs sur 5 matchs, mais je sais pas s'il y avait plus de jus, je sais pas si comme l'avait dit, j'ai revu l'extrait de Nicolas Batum. Chez First Team, qui disait que avant la série, il a dit, pour moi, Dallas, c'est le pire, c'est un cauchemar pour Minnesota. C'est une équipe complètement différente de Denver. Bah, d'ailleurs, on l'avait aussi un peu dit quand on avait fait la preview. Hein. Enfin, moi, je m'étais un peu mis des œillères en me disant Minnesota va passer parce que défensivement, c'est trop fort. Mais Antoine et toi avaient clairement dit que c'était pas un bon match-up pour Minnesota. Et ça s'est confirmé. C'est les joueurs qui ont brillé sur les tours précédents, ceux qui ont été les forces des Wolves ont pas eu l'impact. Et même les leaders, bah, Edwards, Kat, Rudy, ont été limités. Même quand ils faisaient des bons matchs statistiques, l'impact a été ultra limité parce qu'en face, collectivement, c'était, y a rien qui a. C'était réglé comme du papier à musique. Il y a tout qui a fonctionné. Tu as un joueur all-time avec Luka. Tu as un lieutenant qui est dans la forme de sa vie. Honnêtement, Kyrie, je pense, même quand il était un super sidekick pour LeBron, même la belle saison qu'il fait, saison régulière avec Boston, le niveau qu'il a là, c'est indécent. Franchement, Donc il y a tout qui fonctionne. Les role-players sont parfaits dans ce qu'ils font. Il y a rien à dire là-dessus. Et du coup, Edwards fait une performance isolée qui pourrait être correcte dans un type de match, mais pas dans celui-là.
Ouais, tu disais Conley effectivement qui était diminué au mollet hein, quand même la fin du match précédent. Déjà, il n'avait pas pu jouer complètement. On sentait qu'il était limité. Là, il était même, je crois que il était incertain jusqu'au début du match. Donc, ça explique un petit peu effectivement le fait qu'il était semi-transparent. Moi, il y a une chose quand même qui m'a marqué, c'est qu'effectivement. Tu parlais de défense. Cette équipe de Minnesota, elle a bâti comment dire, ses résultats sur sa défense. Et on n'a pas trouvé cette agressivité défensive. Au-delà des performances offensives de Dallas, il n'y a pas du tout eu cette agressivité. Il y a quelque chose qui est frappant pour moi. Tu perds de 30 points. Alors, c'est peut-être un truc, un commentaire à l'ancienne. Tu me diras ce que t'en penses, Shai. Je regarde le nombre de fautes. Les Wolves ont
Ouais.
fait moins de fautes que Dallas. Carl Anthony
Ça
Towns,
a manqué
zéro
d'orgueil.
faute.
Ouais.
Edwards, deux fautes. Rudy Gobert, une faute. Alors, je dis pas qu'à ce niveau-là, il faut faire des fautes ou sortir la boîte à gifles comme on pouvait le faire dans les années 90, mais tu es à domicile devant ton public, tu prends 30 points. Il y a aussi eu, je pense, alors je ne sais pas si c'est que les joueurs y étaient plus, je ne sais pas si c'est qu'il manque un. C'est une équipe qui manque un peu de méchanceté, mais parler de méchanceté dans le bon sens du terme, c'est un petit peu antinomique, mais voilà, de dureté en tout cas. Tu dis finalement, c'est peut-être une des. Je dis pas que c'est une des limites à. Comment dire qui. Je dis pas que c'est quelque chose qui va limiter les Wolves à l'avenir, mais je pense que dans ce match-là, il a peut-être manqué quelqu'un qui rentre sur le terrain en se disant eh, on gagne ou on perd, mais en face. Ils vont arrêter de mettre les paniers comme ils veulent. S'ils veulent mettre leurs points, ils vont devoir les mériter. Tu vois, si tu avais eu un. Je sais même plus lequel des Maurice est du côté des Mavericks. Je vérifie, c'est Markieff. Si tu avais eu un Markieff ou un Marcus Morris en face qui sortait du banc, encore une fois, hein, je dis pas que c'est une bonne solution. Je dis clairement pas que ça aurait permis aux Wolves de prendre ce match-là. Mais je pense que ça a quand même été un des facteurs. Et à un moment, les choses étaient trop faciles. Et quand tu vois, ouais, le nombre. Le peu de nombre de fautes qu'ont fait les Wolves sur un match comme ça, c'est voilà, c'est un petit peu dérangeant.
Ils l'ont eu cette dure méchanceté sur les tours précédents. Enfin, contre Denver, il y a des matchs, notamment les fameux matchs où il limite Denver à 80 et 70. Ça jouait dur, ça jouait physique, ultra physique. Les Nuggets s'en sont plaints d'ailleurs. C'est peut-être dû aussi c'est la répétition des matchs, les efforts. Faut pas sous-estimer ça. Tous les joueurs de cet effectif n'ont pas vraiment connu de campagne au long cours. Au bout d'un moment, ça pèse, je pense, aussi physiquement et ça explique ça. Mais oui, ils ont montré qu'ils pouvaient prendre des fautes. Hein. Quatre, il est
Oui.
sorti au dernier match. Anthony Edwards, il avait pris 5 fautes au dernier match. On peut dire que c'est un arbitre ici et là qui va sanctionner plus durement, mais oui, c'est ce que je disais en intro, en fait. C'est que ce qui m'a surpris, c'est que ça a été aussi facile pour Dallas et qu'il n'y ait pas eu plus de réactions que ça de la part des Wolves. Et c'est moi, je mettrais plus ça. Je ne sais pas si étaient résignés, j'ai pas l'impression, parce que ce que disait Anthony Edwards et tous les espèces de challenges qu'ils se mettaient, je pense qu'ils se sont motivés, mais il y a peut-être plus d'essence dans le moteur, tout simplement. Hein. Faut aussi penser à ça, c'est une saison longue pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude, à part Mike Conley, mais Conley, il n'avait jamais joué de finale de conférence, donc on ne peut même pas dire ça. Les autres, il y a des jeunes joueurs, les McDaniels, Anthony Edwards, même Kat n'est jamais allé très très loin, hein, les 2 fois où il avait été en playoff par le passé. Rudy a quand même bon, une expérience un peu solide maintenant, même en playoff, mais je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Quand en face, tu as un Kyrie qui va jouer ses 4e finales NBA,
Ouais,
quatrième, ouais, je crois.
quatrième.
Quatrième, bah, Luka qui a déjà fait des saisons au long cours. En Europe, en enchaînant saison Europe, équipe nationale et tout, je pense que ça peut aussi jouer là-dedans.
T'as raison, ça c'est sûr, notamment pour Anthony Edwards. D'ailleurs, je finis, on va peut-être finir là-dessus, mais il faut saluer la superbe saison des Timberwolves.
Ouais.
C'est pas un échec, ça fait désordre finalement de finir comme ça par une finale de conférence 4-1, même si t'as été proche, t'as été prêt dans plein de matchs, tu finis, tu te fais exploser à domicile, ça fait tâche, mais par contre, voilà, les Wolves, c'est une vraie équipe. Je pense que le plan de marche est assez clair pour la suite. Ils ont une star en la personne d'Anthony Edwards. Pour devenir une superstar, va falloir confirmer maintenant. Effectivement, 22 ans, il n'a jamais joué autant de matchs de sa vie, jamais joué autant de matchs importants. Il a été présent dans des grands moments durant ses playoffs. Encore une fois, aller chercher le match 7 à Denver au tour précédent, je pense que. Je ne vais pas dire que c'était leur finale avant la finale, mais tu comprends aussi un petit peu l'espèce de relâchement ou de fatigue qu'a pu suivre. Voilà, après la conférence Ouest, ce ne sera pas plus simple l'an prochain. Donc tu ne peux pas non plus t'endormir sur tes lauriers. Il faut que ça leur serve de leçon dans le bon sens du terme. Apprendre de ce qui leur a manqué cette année pour repartir encore plus déterminé en ayant une idée plus claire peut-être de ce qu'il leur faut pour aller plus loin. Mais en tout cas, c'est une saison magnifique pour les Wolves.
Et ils sont tombés, je le répète, sur un joueur all-time parce que j'avais noté la stat, mais Luka, c'est le 4e joueur de tous les temps en playoff qui arrive à compiler 450 points, au moins 450 points, 150 passes et 150 rebonds. Les autres, c'est Larry Bird, Nikola Jokic l'année dernière, donc ça a débouché sur le titre, hein, et pour Bird, pareil, et LeBron James 6 fois. Bon, c'est LeBron James, mais et Luka l'a fait, et là, il le fait après ce match 5, il est dans les clous pour là-dessus, donc Alors, les Wolves, il y a toutes les raisons qu'on a évoquées, et Dallas, c'est pas un bon match-up, mais il y a aussi que Doncic fait une campagne de play-off monstrueuse et une série de très 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 haut niveau.
Oui, d'ailleurs, Luka Doncic, qui a été élu
MVP des finales,
MVP des
ouais.
playoffs à l'Ouest, donc il a obtenu le trophée Magic Johnson, et on en parlait avant de commencer le CQFR, mais si vous pouvez aller voir la remise des trophées, c'est à mourir de rire, en fait, parce qu'au moment où on lui présente le trophée, t'as le public qui hue, et qui est en train de le huer, et qui... En fait, tu vois Luka qui, au lieu de faire comme si ça n'existait pas, regarde les gens, et quand le micro lui est tendu, le premier truc qu'il dit, c'est ouais, I see you. Genre, je vous vois en mode je prends des notes pour l'an prochain, on en reparlera l'an prochain. Et à la fin, quand il finit son speech plutôt cool en disant ouais, c'est pas moi, c'est toute l'équipe, etc., il se met à huer lui-même le public. Bref, moi franchement, ça m'a fait rire. Tu sens que le mec, c'est un rageux de ouf dans la lignée des plus grands tarés de ce sport. C'est ouais. Ça m'a bien fait marrer. Shai, je te propose qu'on referme là la parenthèse sur cette finale de conférence. Encore une fois, on reparlera dès lundi prochain des finales NBA qui se profilent. Une petite info plutôt tragique du côté d'Aaron Gordon qu'on a appris ce matin. Je te laisse nous expliquer ça, Shai.
Ouais, c'est son frère Drew Gordon, son grand frère, qui a 33 ans, est décédé hier dans un accident de voiture du côté de Portland. Donc ouais, c'est une nouvelle tragique pour Aaron Gordon et sa famille. Et Drew Gordon a été passé par la France notamment. Il a joué à Chalon-Reims une saison. Il avait été très bon d'ailleurs. Il avait été All-Star, je crois. Et brièvement passé en NBA aussi. Il n'avait pas été drafté, mais on l'avait vu aux Sixers sur un bout de saison. Et puis il avait fait une saison, une carrière très très honorable en Europe avant de raccrocher l'année dernière, il me semble, après un dernier contrat en Ukraine. Mais ouais, une bien triste nouvelle pour Aaron Gordon et puis bah, pour toute sa famille. Ouais.
Ouais, donc voilà, triste nouvelle. Si vous voulez en savoir un peu plus, on a fait news donc sur Basket Session, si vous voulez un peu plus de détails au sujet d'Aaron Gordon et de son frère. Nous, on vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain matin, Chai et moi, pour répondre aux questions que vous nous avez posées dans la semaine, ce à quoi il fallait répondre. Il y aura bien entendu un Hoop Culture dimanche avec Pierre Armand. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez découvrir la thématique. Elle est liée quand même au final NBA qui se profile. Nous, on vous souhaite encore une fois, voilà, passez une super journée, faites bien attention à vous et on vous dit à très vite. Ciao!
Ciao!